Nico Douiman.
Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Nous sommes le 14 octobre 2019. Voici les grands titres de cette édition. Commémoration ce lundi du 58e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Ouagasoré. À Bujumbura, les cérémonies ont commencé comme d'habitude par une messe en la cathédrale Regina Mundi. Pendant son homélie, Monseigneur Anatole Guérignanga a appelé les Burundais à consolider leur fraternité comme héritage du héros de l'indépendance nationale. Une particularité à Ngozi, les administratifs ne sont pas allés à la messe de circonstance dite en la cathédrale de Ngozi, mais des cérémonies officielles de commémoration ont eu lieu au monument de Ouagasoré situé en face du bureau de la commune de Ngozi. Notre correspondant nous le dira. Les habitants de Muyinga réclament l'inclusion du traitement des maladies des yeux dans le paquet des services couverts par la carte d'assistance médicale. Les responsables sanitaires provinciaux répondent que cela se décide au niveau national. Et à Gitega, les malades mentaux doivent 97 millions de francs burundais au centre des soins mentaux de Gitega et réclament la gratuité des soins. Et en actualité sportive internationale, la Kenyane Bridget Kosgei bat le record du monde du marathon. La performance de l'athlète kenyane efface des tablettes celle de la Britannique Paula Radcliffe, dont le record datait de 2003. Voilà pour le sommaire.
Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel.
Je venais de vous le dire dans les titres, le centre des soins mentaux de Gitega, des malades mentaux de Gitega souffrent essentiellement des problèmes d'exiguïté et de l'insolvabilité des patients. Les responsables de ce centre disent que les patients lui doivent 97 millions de francs burundais. Ils demandent aux services concernés de lui octroyer un terrain plus vaste et à ses débiteurs. Le centre demande le remboursement des dettes, mais ces malades réclament plutôt à l'État de décider la gratuité des soins des malades mentaux. Gérard Nivegira.
L'exiguïté du centre des soins mentaux de Gitega a fait que les hommes et les femmes hospitalisés dorment dans une même salle, faute de parcelles vastes pour construire deux salles d'hospitalisation, telles que le précise frère Wela Zendemeye, directeur administratif et financier du centre. Il demande alors aux services compétents d'offrir au centre un terrain vaste pour y ériger de nouveaux bâtiments vastes. Toutefois, Aimé Irambona, chef d'antenne de l'urbanisme et de l'habitat au centre-est du pays, indique qu'il n'y a pas de parcelles en cours de distribution maintenant et que même s'il y en avait, les responsables de ce centre introduiraient la demande suivant les procédures normales. Un autre problème est relatif au non-paiement des factures par les patients ou leurs familles, à tel point que maintenant ces derniers doivent au centre un montant de 97 millions de francs, comme le déclare frère Wela Zendemeye. Il demande aux malades et à leurs familles concernées de se sacrifier pour payer les factures des services dont ils bénéficient. Cependant, certains membres des familles et des malades mentaux demandent à l'État de plutôt décider la gratuité des soins pour les malades de cette catégorie, dans la mesure où le coût des soins mentaux est très élevé. C'est la vie de Madame Nyonzima Sophie, dans la commune Kayokwe, province Moaro, qui doit au centre une somme de 730 000 francs pour le traitement de ses deux enfants souffrant des maladies mentales. Elle souligne également qu'elle a souvent morcelé et vendu ses terres pour avoir le montant de les faire soigner. Depuis Gitega, Jani Bigira pour la radio Isanganiro.
Merci Gérard. Des habitants de Muyinga réclament l'inclusion du traitement des maladies des yeux dans le paquet des services couverts par la carte d'assistance médicale. Cette réclamation émane particulièrement des personnes ayant des symptômes de maladies des yeux mais qui ne se font pas soigner faute de moyens financiers. Des cadres du bureau provincial de santé signalent que la politique de la dite carte relève du niveau national. Dieudonné Nzeyimana.
Cette mère, la soixantaine, rire se mêle à la souffrance due à une maladie des yeux, la toute première dans sa vie. Nous la croisons sur la colline Kivoga, commune Muyinga, où bon nombre d'enfants et adultes manifestent des symptômes de maladie des yeux. Une femme de moins de 30 ans, avec des yeux tout rouges, signale avoir des démangeaisons aux yeux, comme si c'était une attaque des chiques, et cela depuis 5 ans. Ici, comme sur d'autres collines, comme Ruivi et Gatovu, des cas de personnes s'acheminant vers la cécité sont signalés.
Nabonye nyene bitangura kuzimangana buke buke naho rasoma naho rasoma bibiri arangira gute mona birase ko sobona.
Le point commun, la difficulté à se faire soigner par d'ophtalmologues dans les hôpitaux publics dans cette province. Les consultations et les soins sont chers. Au bureau provincial de santé, des proches du médecin provincial signalent que l'exploitation des CAM découle du manuel de procédure pour la mise en œuvre de la carte d'assistance médicale au Burundi, la détermination des services y afférents et de la compétence de l'autorité ministérielle. Muyinga Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro.
Isanganiro. La radio de l'avenir.
Les Burundais sont appelés à consolider leur fraternité comme héritage du prince Louis Rwagasore au cours d'une messe en sa mémoire ce lundi après 58 ans d'assassinat de ce héros de l'indépendance. Monseigneur Anatole Rugerinyange a estimé que si les Burundais prennent ce chemin dans la prochaine échéance électorale, les élections seront sans doute paisibles. Il appelle également les Burundais à être vigilants face aux messages qui passent sur les réseaux sociaux, car beaucoup d'entre eux sont des mensonges qui peuvent diviser. Suivez-le, il est traduit en français par Aubin Yonkou.
Soyons vigilants, surtout dans ces années. Ces téléphones portables sont devenus des outils de mensonge. Ils alertent les esprits, faisons attention. Éduquons notre jeunesse. Nous ne précipitons pas à envoyer de tels messages. Soyons des hommes discrets. Faites-le dans le but de consolider la fraternité, que ce soit de manière verbale ou via ces messages. En plus, puisque nous sommes appelés à ressembler avec Jésus, que nos jambes et nos bras soient utilisés pour nous développer, faire du bien et nous consolider. Par contre, ne les utilisons pas pour nous entretuer. Vous le savez, on mémorise d'abord spirituellement, puis verbalement, et enfin dans les actes de violence. Que nous mémorisons les bienfaits de Dieu, l'amour juste pour bénir, consolider notre fraternité. Tel est l'héritage que le prince Louis Rwagasore nous a laissé. Et aussi, c'est la parole de Dieu. N'oublions pas alors cette parole. D'une part, il nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Ensuite, ce que tu veux qu'on te fasse, faites-le aussi à autrui. Et enfin, vous êtes tous des frères. Si nous prenons ce chemin au cours de la prochaine échéance électorale, les élections seront paisibles. Nous serons unis dans l'amour de Dieu. Demandons que l'héritage de Rwagasore soit le nôtre et dans la vie. Donnons la place à Dieu, respectons-lui et consolidons notre amitié au Burundi et au monde entier.
Monseigneur Anatole Rugerinyange, je vous l'avais dit, la commémoration a également eu lieu à Ngozi. Là-bas, les responsables administratifs n'ont pas pris part à la messe de circonstance célébrée à la cathédrale de Ngozi comme d'habitude. Par contre, ils ont organisé des cérémonies officielles au monument des héros situé en face du bureau communal de Ngozi après cette messe. Apollinaire Mozakara.
De telles cérémonies débutaient les années antérieures par une messe en mémoire de cet héros de l'indépendance à la cathédrale d'Ongozi. Les responsables administratifs, les chefs de différents services œuvrant au chef-lieu de la province Ngozi et autres y participent, ce qui n'a pas été le cas solennel hier. Dans les communiqués à la cathédrale catholique d'Ongozi, il a été élu celui de l'administrateur communal d'Ongozi. Il a informé la population que les cérémonies vont débuter à 9h au monument des héros, si au bureau communal. Après, la paroisse catholique, par un autre communiqué, informe de son côté la population qu'il y aura à 7h30 une messe en mémoire de cet héros et qu'on va aussi à cette occasion prier pour le Burundi, ce qui a étonné bon nombre de chrétiens présents. Ces cérémonies qui se déroulaient en pleine messe, y compris les honneurs rendus par les forces de l'ordre, n'ont pas eu lieu. Elles se sont déroulées au monument où l'administration provinciale et communale, sans oublier les différents partis politiques, y ont déposé des gerbes de fleurs. Donc aussi, apprenez-moi.
Et en ce moment, le Burundi s'achemine vers les élections de 2020. Le président du parti, Frodi Bunyakuri, appelle ceux qui vont les perdre à la retenue et souhaite que ceux qui vont les remporter puissent utiliser le discours d'apaisement. Le président du parti Frode Bunyakuri fait allusion au discours du prince Louis Ouagasore après la victoire de son parti au pouvoir en 1961. L'appel de Kefasni Bizi coïncide avec la commémoration du 58e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Ouagasore. Suivez Kefasni Bizi au téléphone avec Evariste Nzikobanyana.
Dans le discours des héros de l'indépendance, il y a plusieurs leçons, mais on pourrait retenir quelques-unes. Il recommande que les vainqueurs traitent paisiblement et équitablement les vaincus et que même les membres du parti qui venaient de gagner devraient se comporter en responsables à l'égard de tous les Burundais et à l'occurrence à ceux qui avaient perdu. Il s'agissait donc d'un message apaisant qui tranquillisait tout le monde et que si une fois ça continue comme ça et tous les partis politiques iront aux élections dans la tranquillité, sachant que si on va gagner ou si on va perdre, on restera toujours dans la dignité.
Ce qui n'a pas empêché que le prince Louis soit assassiné après.
Vous savez, le processus électoral est un processus qui prend du temps. Cela montre que les gens n'ont pas encore compris le processus. Par ailleurs, vous savez que même après, Nadal Américain a été assassiné. Mais maintenant, nous avons des institutions stables. Ça veut dire que les gens ont déjà compris les démarches démocratiques.
De son côté, le parti Parena Imbogora Burundi trouve que les élections de 1961 connaissaient les mêmes défis que les prochaines, prévues en 2020. Zenon Imubona estime que l'intervention de l'Organisation des Nations Unies garantirait l'organisation de bonnes élections, comme il en a été le cas avant l'indépendance du Burundi. Suivez-les au téléphone avec Eli Nibel Nibigira.
D'emblée, on pourrait vous dire que les élections au Burundi n'ont jamais porté de chance au pays, que ce soit en 61, en 65, en 93, 2015, ça a été des élections portées de malheur. Il y a eu assassinat des gens. Ça veut dire que les élections, on les organise sans consensus sur le cadre légal et les organisateurs, je veux dire la commission électorale. En 1961, les élections communales ont été organisées par le gouvernement de l'époque. L'UPRONA les a perdus lamentablement. Mais comme le pays était encore sous tutelle des Nations Unies, l'UPRONA a réclamé que les législatives soient organisées par les Nations Unies. Après les résultats des législatives suite à l'intervention de l'ONU, l'UPRONA les a gagnés à un score des Tunisiens, comme le disent certains. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils perdaient les communales lamentablement pour gagner les législatives haut la main? C'est que dans l'organisation des élections, le rôle de la CENI est très important. Cela veut dire que les électeurs peuvent lire, mais la CENI peut proclamer autre chose. Les résultats peuvent suivre le cours de celle de 1960.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des raisons qui pousseraient à ce que l'ONU organise les élections au Burundi aujourd'hui?
Oui, il y en a parce que c'est l'ONU qui a parrainé les accords d'Arusha. Pendant que l'ONU est encore ici, il assiste impuissant, mais il devrait en principe les organiser. Donc l'intervention est justifiée. Si tel n'est pas le cas, l'ONU aura déclaré forfait et ce forfait pourrait avoir des conséquences préjudiciables au pays.
Zenon Nimubona, avant la chronique sportive où l'on va parler du basketball, quelques nouvelles brèves en international. La Kenyane Brigitte Kosgei bat le record du monde du marathon. La performance de l'athlète kenyane est face des tablettes, celle de la Britannique Paula Radcliffe, dont le record daté de 2003. Au lendemain de l'exploit de son compatriote Eliud Kipchoge, premier homme à courir le marathon sous les 2 heures, 1h59 minutes 40 secondes, Kosgei, 25 ans, enlève 1 minute et 21 secondes au record établi par Paula Radcliffe. Début septembre, Kosgei a couru le semi-marathon le plus rapide de l'histoire. 1h04 minutes 28 secondes. Et les pourparlers de paix intersoudanais reprennent ce lundi à Djouba. Les autorités de Khartoum et les rebelles du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu vont se rencontrer ce lundi à Djouba, la capitale du Sud-Soudan, du Soudan du Sud. Ateni Wek Ateni, le porte-parole de la présidence sud-soudanaise, a indiqué que Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, tout juste couronné du prix Nobel de la paix 2019, le président ougandais Yoweri Museveni et le chef de l'État kenyan Uhuru Kenyatta sont attendus à Djouba afin, dit-il, de donner plus de poids au pourparlers. Selon lui, les discussions devraient entrer dans le vif du sujet ce lundi après les premières négociations de septembre, au terme desquelles les partis en conflit avaient adopté une feuille de route.
Radio Isanganiro, chronique sport.
Le basketball est un jeu qui se joue à l'aide des mains sur un terrain de 28 mètres de longueur et 15 mètres de largeur. D'après le président de l'association des clubs de basketball amateurs de Bujumbura, Asebab, Aimé Christian Nibigira, le nouveau règlement prévoit un système d'arbitrage à 3 à l'intérieur du terrain en collaboration avec 3 autres à l'extérieur. Les détails dans cette chronique sportive avec Marie-Claire Cazenet.
Le basketball a commencé au Canada, mais ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont développé ce sport via le championnat qu'ils organisent dénommé NBA, National Basketball Association. Cela est dit par Aimé Christian Nibigira, président de l'association des clubs de basketball amateurs de Bujumbura, Asebab, tout en ajoutant que ce jeu se joue à l'aide des mains.
Le jeu de basketball, c'est un jeu qui a été créé au Canada, mais qui s'est beaucoup plus développé aux États-Unis d'Amérique. C'est un jeu qui se joue sur un terrain, soit en béton ou soit sur du plancher. Il y a aussi des terrains synthétiques en caoutchouc qui se développent maintenant. Le terrain mesure 28 mètres sur 15. C'est un jeu qui se joue entre deux équipes. Dans le terrain, chaque équipe doit avoir 12 joueurs au maximum. Chaque équipe aligne seulement 5 joueurs. L'équipe gagne quand cette dernière marque beaucoup plus de points, beaucoup plus de paniers. Et chaque panier compte 2 points, mais il y a la ligne qui est sur 6 mètres. Cette ligne, quand tu marques en dehors des 6 mètres, tu marques les 3 points. Il y a aussi la ligne des lancers francs. Quand tu fais entrer le ballon dans le panier, on compte 1 point. C'est un jeu qui se joue avec les mains. Le ballon se joue par des passes et des dribbles. Quand le ballon touche des pieds, c'est une violation. On donne à l'équipe adverse.
Concernant le système d'arbitrage, ce président de la CEBAB indique qu'un match de basketball est arbitré par 3 arbitres à l'intérieur du terrain, encore au avec les 3 autres à l'extérieur du terrain qui ont des fonctions différentes.
Dans le terrain, il y a 3 arbitres et sur la table, il y a un marqueur, il y a un commissaire de match, il y a un opérateur chrono. Maintenant, avec cette année à la CEBAB, on a déjà initié le système des statistiques. Comme ça, à la fin de chaque partie, chaque équipe, c'est un de ses joueurs qui est entré dans le terrain, ce qu'il a marqué, les fautes qu'il a commises. Les arbitres se basent sur le règlement FIBA. Même le règlement de jeu, c'est le règlement qui a été régi par la Fédération internationale de basketball. Tout ce qui se joue, on se réfère au règlement FIBA.
Dans la prochaine chronique sportive, Aimé Christian Nibigira nous parlera de l'état de lieu de basketball au Burundi et les défis auxquels font face les pratiquants burundais de basketball.
Marie-Claire Cazeneza, et c'est sur cette chronique sportive que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eli Kadogo pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Nouimana, passez une très bonne journée.